bonsoir. Cette fois, il est parti. Emmanuel Macron quitte le gouvernement pour retrouver sa liberté de parole. Le désormais ex-ministre de l'économie sera présent dans la campagne présidentielle, mais il ne dit pas s'il sera candidat. Dans ce journal, le décryptage politique de Stéphane Robert, l'analyse économique de Raphaël Ebenstein et le commentaire de notre invité, l'ancienne ministre Nicole Bricq, qui est favorable à la démarche d'Emmanuel Macron. La CGT annonce une rentrée offensive. Le syndicat de Philippe Martinez veut poursuivre et intensifier la lutte contre la loi travail. Nous verrons cela avec Annabelle Grolier. Bruxelles demande à Apple de rembourser 13 milliards d'euros d'impôts à l'Irlande. Le géant américain conteste les chiffres de la Commission européenne. Il aura passé 2 ans au gouvernement, mais à 38 ans, le voilà déjà ancien ministre de la République. Emmanuel Macron a donc présenté sa démission cet après-midi à François Hollande. C'est Michel Sapin qui récupère le portefeuille de l'économie tout en restant ministre des Finances. Emmanuel Macron a ensuite tenu une conférence de presse à Bercy pour expliquer les raisons de son départ. Avec cette petite phrase, j'ai touché du doigt les limites de notre système politique. Tout en rendant hommage à François Hollande, Emmanuel Macron affirme vouloir, je cite, entamer une nouvelle étape de son combat et construire un projet qui serve uniquement l'intérêt général. Une démarche qui, à l'évidence, est incompatible avec son maintien au gouvernement.
Le président de la République a posé un cadre clair le 14 juillet dernier. Compte tenu du cadre qu'il avait posé, j'avais le choix entre arrêter de porter une vision, un projet nouveau, me taire, ne plus avancer, ou le mettre en difficulté, voire conduire à une crise gouvernementale qui l'aurait conduit à me démissionner, donc, à me renvoyer du gouvernement. Donc la conclusion logique, au fond, compte tenu de cette ambition légitime pour le pays, de cette volonté de faire et du profond respect que j'ai à la fois pour les institutions et pour le président de la République lui-même, c'était d'en tirer les conclusions.
Emmanuel Macron, ce soir sur TF1, l'ex-ministre a refusé de dire s'il était ou non candidat à l'Élysée. Le temps de l'incarnation n'est pas venu, s'est-il contenté de déclarer. Avec vous Stéphane Robert, voyons à présent les étapes qui ont conduit Emmanuel Macron à s'affranchir de la tutelle de François Hollande.
Ses prises de position, ses initiatives pour marquer sa différence avaient montré au fil des semaines sa volonté de plus en plus affirmée de prendre son envol. Il y avait d'abord eu en avril la création de son mouvement politique qui reprenait dans une ambition un peu mégalomane les initiales de son nom et de son prénom, En Marche, comme Emmanuel Macron. Ensuite, au mois de mai, il avait mis en cause une caste politique à laquelle il affirmait ne pas appartenir, ce qui lui avait valu un sévère recadrage de la part du Premier ministre Manuel Valls, avec qui la rivalité devenait de plus en plus criante. Le 12 juillet dernier, 2 jours avant la traditionnelle interview présidentielle du 14 juillet, il avait organisé son premier meeting devant 2000 personnes à la Mutualité. Et puis plus récemment, au mois d'août, dans une ultime provocation envers Manuel Valls, il est allé déposer une gerbe sur la tombe de Georges Clemenceau et il a déclaré ne pas être socialiste lors d'une visite au Puy du Fou en Vendée à l'invitation de Philippe de Villiers. Emmanuel Macron a donc officialisé sa volonté, comme il le dit lui-même, de prendre sa liberté. Ce ne sera certainement pas pour être candidat à la primaire à gauche prévue au mois de janvier, mais plutôt dans une perspective d'apparaître comme un recours au cas où François Hollande ne serait pas en mesure de se représenter l'année prochaine. Et puis si ça n'est pas pour 2017, cette démission d'un gouvernement de gauche dans une attitude transpartisane peut être reconvertie par Emmanuel Macron comme une manière de prendre date pour l'avenir.
Stéphane Robert, alors en 2014, Emmanuel Macron avait succédé à Arnaud Montebourg au ministère de l'économie. 2 ans plus tard, son bilan est plutôt mitigé malgré une farouche volonté de réformer incarnée par la fameuse loi Macron. Raphaël Ebenstein.
Retour à l'été 2015, la première fois que le gouvernement avait dû recourir au 49-3 pour faire adopter un texte, la loi dite pour la croissance, l'activité, l'égalité des chances économiques, souvent considérée comme un vaste fourre-tout, aura été la seule grande œuvre d'Emmanuel Macron à Bercy. Au point par exemple que l'expression « car Macron » est passée dans le vocabulaire courant après l'ouverture des lignes pour les distances supérieures à 100 km/h. Outre cette mesure qui a profité quand même à près de 4 millions de voyageurs, le texte a aussi entériné l'ouverture des magasins jusqu'à 12 dimanches par an, même tous les dimanches, dans les zones touristiques internationales, ainsi que la réforme des tarifs des professions réglementées, notaires ou huissiers. Mais le ministre aura été privé d'une loi Macron 2, des dispositions qu'elle devait contenir étant intégrées à la loi El Khomri. Bref, un bilan finalement assez mitigé, plutôt mince, bien en deçà de ses déclarations parfois fracassantes sur la fausse idée des 35 heures ou sur le refus d'encadrer par la loi le salaire des patrons.
Raphaël Ebenstein, invité de ce journal, la sénatrice socialiste Nicole Bricq, ancienne ministre de François Hollande. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Nicole Bricq, vous faites partie des soutiens d'Emmanuel Macron au sein du PS. Vous êtes soulagée ce soir de le voir quitter le gouvernement ?
Je pense qu'il l'a fait à partir de deux valeurs qu'il incarne bien, la liberté et la responsabilité. À partir du moment où il veut défendre ses idées, il part du gouvernement, c'est tout à fait correct. Et vis-à-vis du président de la République, il l'a nommé à son poste, et vis-à-vis gouvernement. Cette année qui vient, à l'évidence, il n'y aura pas de grandes réformes. Donc, il ne part pas sur un désaccord.
Mais il n'était pas libre au gouvernement ?
Mais c'est normal, un gouvernement, j'ai fait partie de celui de Jean-Marc Ayrault, vous êtes dans la solidarité avec la définition du cadre politique fixé par le Premier ministre.
Mais on peut être solidaire et bien dans ses baskets.
Oui, mais je pense que l'élection présidentielle, c'est quand même l'élection cardinale. Et ça passe qu'une fois tous les 5 ans. Et quand on veut défendre un projet pour la France, à partir des étapes qu'il a fixées lui-même aujourd'hui et du calendrier qu'il s'est donné, je pense qu'il faut le faire. Et il le fait en liberté et en responsabilité. Et je crois que plus profondément, on a besoin d'une parole positive dans la période.
Ça veut dire que pour vous, Emmanuel Macron, à l'évidence, sera candidat à l'Élysée ?
Je pense qu'il veut peser dans la campagne présidentielle. Et c'est pour ça que je soutiens sa démarche. C'est un homme d'idées. Il a dit « le temps de l'incarnation n'est pas venu ». Il va faire un diagnostic à partir du travail des marcheurs. Et il présentera, non pas un programme, et ça c'est important comme nuance, un plan d'action.
Mais comment peser quand on n'est pas candidat ?
Mais nous avons un espace de temps où il va y avoir une primaire à droite. Donc il faut aussi en tenir compte. Et donc cet espace de temps, c'est le moment ou jamais de défendre des idées. Et vous voyez ce que j'aime bien aussi dans Macron, c'est qu'il bouge les lignes. Et notamment, je crois que la frontière qu'il fixe entre les conservateurs et les progressistes, c'est très important la notion de progrès, au moment où beaucoup de gens n'y croient plus. Donc je trouve que c'est tout à fait emblématique de ce qu'il est par rapport au fait qu'il veut dépasser des clivages qui aujourd'hui ne sont plus opérationnels.
Est-ce que vous imaginez Emmanuel Macron candidat à la primaire de gauche face à François Hollande ?
La primaire telle qu'elle se construit autour du Parti Socialiste, ce que je vois surtout, c'est qu'elle est entre soi et que, compte tenu des déclarations des uns ou des autres, membres du Parti Socialiste, je pense que c'est pas ça qui va régler le problème de la France et des Français au moment où ce pays, notre pays, est confronté à des défis historiques. Donc, franchement, c'est pas son rôle.
Sauf que François Hollande, lui, pourrait bien être candidat à cette primaire, être élu, et donc il pourrait se retrouver face à Emmanuel Macron.
Bon, moi, je vais vous dire le fond de ma pensée par rapport à ça. Je rejoins du reste Henri Emmanuelli qui, cet été, dans le journal Sud-Ouest, dit « J'espère bien que cette primaire n'aura pas lieu ». Eh bien, moi aussi, je suis complètement d'accord. Cette primaire n'a pas de sens.
Est-ce qu'Emmanuel Macron peut encore travailler avec François Hollande ou est-ce qu'on assiste ce soir à un divorce irrémédiable ?
C'est une rupture avec une certaine manière de faire de la politique. Il s'en est longuement expliqué dans sa déclaration et il est revenu ce soir. Je crois qu'il faut donner un nouvel élan. Il a la jeunesse, c'est un atout, mais ça ne suffit pas. Et surtout, il a quand même cette vision sociétale, qui est, c'est vrai, un peu différente de ce qu'on entend, notamment de la part de certains membres du gouvernement et du Premier ministre lui-même. Et il a une vision économique, une vision européenne, et l'économie et l'Europe, ça va quand même un peu ensemble dans la période que nous traversons. Et il faut qu'il puisse articuler tout ça avec une pensée sociale. Alors, il a une vision de l'entreprise, Contrairement à ce qu'a dit votre commentateur, la loi Macron a bougé les lignes. Elle a montré qu'on pouvait faire des réformes et qu'on pouvait peser sur l'action des entreprises, dans le bon sens du terme. Et en même temps, il faut qu'il trouve cette pensée sociale qu'il articule avec cette vision globale qu'il a de son projet. Ça, c'est très important, notamment par rapport au pouvoir qu'on donne aux travailleurs. Voir aussi comment on peut articuler ça avec un mouvement du monde. Et ça, c'est très important. Je crois qu'il peut le faire, parce qu'une pensée sociale, pour quelqu'un dont la famille, c'est la gauche, c'est très important.
Sur l'attitude très musclée de Manuel Valls sur les questions de société, comme on a pu le constater encore récemment avec l'affaire du Burkini, est-ce que ce discours musclé de Manuel Valls a pu, à un moment donné, gêner Emmanuel Macron ?
Il s'en était expliqué assez tôt, quand il s'est agi de porter le débat sur l'identité. Il avait fait entendre sa musique. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai entendu hier soir de ce qui s'est dit à Colomiers, je comprends que Emmanuel Macron ne s'y retrouve pas.
Nicole Bric, merci d'avoir été l'invitée de France Culture ce soir pour commenter cette démission d'Emmanuel Macron. Cette démission qui a éclipsé un autre départ du gouvernement, celui de la ministre des Outre-mer, Georges Pau Langevin, pour raisons personnelles, selon les termes du communiqué de l'Élysée. Georges Pau Langevin souhaite retrouver son siège de député de Paris lors des législatives de l'an prochain. Pour la remplacer, François Hollande a choisi Erika Barregue. Actuelle secrétaire d'État à l'égalité réelle, à 49 ans, Erika Barregue devient ainsi le premier ministre des Outre-mer, issu de l'île de la Réunion. L'actualité sociale est dominée ce soir par la rentrée de la CGT. La centrale de Philippe Martinez reste mobilisée contre la loi travail. La mobilisation va donc se poursuivre. Annabelle Grelier, le patron de la CGT, ne pouvait pas ne pas commenter le départ d'Emmanuel Macron, un ministre que le syndicat ne regrettera pas.
Symbole d'une dérive libérale, la CGT ne regrette pas, c'est sûr, le départ d'Emmanuel Macron.
Il ne s'est pas beaucoup occupé de l'industrie, il ne s'est pas beaucoup occupé des Français, sauf parfois pour les insulter, les traiter d'illettrés. Il a d'abord pensé à sa carrière personnelle, je pense que sa démission en est le symbole.
Le syndicat qui réclame toujours l'abrogation de la loi travail assure que le combat n'est pas terminé, Philippe Martinez.
Nous allons continuer à nous battre dans la rue, mais aussi sur le terrain juridique, et puis nous allons évidemment être très vigilants à chaque publication de décret, parce qu'il arrive parfois que des décrets aillent plus loin que ce qu'on a écrit dans la loi. Et puis, à chaque décret que nous jugerons contestable, nous envisagerons toutes les possibilités de contester et de ne pas faire appliquer ces décrets.
Pour la CGT, cette année sera celle du rassemblement syndical, y compris avec la CFDT, pour que les questions sociales soient au cœur de la campagne présidentielle. Une campagne qui sent déjà mauvais pour Philippe Martinez.
Quand on stigmatise des personnes pour leur tenue sur une plage, on cible une catégorie de citoyens français et c'est la porte ouverte à toute la surenchère sécuritaire. Or, c'est ce qu'on voit. Et on entend des choses nauséabondes. Certains parlent de parquet des individus. Enfin, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. On veut conditionner la vie des Français, mais les préoccupations, elles ne sont pas là.
Au programme de cette rentrée, des meetings au Havre cette semaine, à Nantes le 7 septembre et une journée d'action et manifestation contre la loi travail prévue pour le 15 septembre.
Annabelle Grelier, merci. Le bras de fer ne fait sans doute que commencer. La Commission européenne demande à Apple de rembourser à l'Irlande plus de 13 milliards d'euros d'impôts. Bruxelles estime en effet que les avantages fiscaux consentis aux géants américains par le gouvernement irlandais, que ces avantages fiscaux constituent des aides illégales. Résultat, selon la Commission, Apple a payé des impôts ridicules sur les bénéfices de ses ventes dans l'Union européenne. Argumentation rejetée par la marque à la pomme. Pierre-Yves Dugas nous appelle de New York.
Apple est le plus gros contribuable en Irlande, le plus gros contribuable aux États-Unis et le plus gros contribuable dans le monde, explique outré Luca Maestri, le directeur financier du géant californien. Monsieur Maestri juge que la Commission européenne s'est complètement trompée dans ses calculs, que son interprétation de ses prérogatives viole la souveraineté de l'Irlande et risque d'avoir des conséquences dévastatrices pour l'économie européenne en incitant les multinationales à ne pas s'implanter en Europe. Apple, tout comme le gouvernement irlandais, se pourvoit en appel. La somme exigée par la Commission européenne ne représente que deux trimestres des bénéfices actuels d'Apple. le cours de la société californienne chute de moins d'1%. Apple dispose à ce jour de plus de 230 milliards de dollars en trésorerie.
Pierre-Yves Dugas, l'État islamique annonce ce soir la mort de son porte-parole, le Syrien Abu Mohamed al-Adnani. Il a été tué à une date non précisée dans les combats à Alep. Al-Adnani s'était rendu tristement célèbre en appelant les djihadistes présents en Europe à attaquer les infidèles avec n'importe quelle arme disponible, couteau, pierre ou véhicule. Au Gabon, on attend toujours la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle. La commission électorale gabonaise est réunie ce soir à Libreville. Les deux rivaux, le président sortant Ali Bongo et l'opposant Jean Ping, revendiquent chacun la victoire à l'élection. Retour en France avec la météo demain. L'été revient, beau temps chaud sur presque tout le pays. Seuls quelques orages perturberont le ciel bleu dans l'extrême sud-est. Les températures maximales de 26 à 32 degrés du nord au sud. Il fera un peu plus frais du côté de la Manche. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.